Notre-Dame, toute Mitterrand.
Longueur d'onde.
Tant de chance.
L'émission qui réunit les générations.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Prévert pour cette quatrième émission Longueur d'onde, l'émission qui réunit les générations, qui a pour thème aujourd'hui l'égalité femmes-hommes. Cécile Fromont au micro, responsable de l'association Hors Limite, et Stéphane Boursier à la régie. Radio Prévert accueille aujourd'hui Marie-Noël, Christiane et Raymond de la Maison des Seniors à Chalon-sur-Saône, ainsi que trois élèves du collège Jacques Prévert à Chalon. Nous accueillons donc Nina, qui est en troisième, ainsi que Brian, en sixième, et Mathéo, en quatrième. Lors de notre dernière émission, nous avions échangé sur la révolution de mai 68 expliquée aux ados. Cette émission a ouvert la voie aux différentes thématiques qui vont suivre, et notamment celles portant sur l'égalité femmes-hommes, ce qui a changé, ce qu'il reste à faire. Alors, l'égalité femmes-hommes, c'est quoi pour vous? Comment est-ce qu'on pourrait la définir? Christiane?
Alors, en préambule, on pourrait dire que l'égalité des sexes est le principe selon lequel les hommes et les femmes devraient recevoir un traitement égal et ne devraient pas être victimes de discrimination basée sur leur appartenance à l'un ou l'autre sexe. L'égalité des sexes est un objectif de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies qui prévoit une égalité en droit et dans des situations sociales comme le fait de recevoir un salaire égal pour un travail égal.
On va aborder la famille, l'éducation, hein, puisque je pense qu'on a quand même quelques éléments à pointer de ce côté-là.
C'est vrai qu'il a été remarqué quand même une inégalité dans l'éducation des filles et des garçons, que dans beaucoup de civilisations, certaines cultures, on préfère avoir un garçon plutôt qu'une fille, sous le prétexte que l'homme a, pense-t-on, plus de force que la femme, qu'il peut travailler la terre, qu'il peut défendre et aider sa famille. Dès la naissance, donc certains enfants, selon s'ils sont garçons ou filles, ont un destin tout tracé, et chacun a un rôle prédéterminé par la société dans laquelle il est né.
Alors plus près de nous, j'aimerais donner la parole aux seniors et aux collégiens qui sont autour de cette table pour leur demander s'ils ont perçu ou vécu des choses qui, pendant leur enfance, ont pu conditionner une certaine forme de sexisme dans leur éducation. Je m'adresse un petit peu aux collégiens, on a entendu un petit peu les seniors pour introduire un peu ces notions d'égalité femmes-hommes. Est-ce que vous, déjà dans les apprentissages de la vie, hein, déjà dès la petite enfance, je veux dire, par les contes, par les lectures, par, je sais pas, les jeux, les loisirs, les sports, est-ce que vous aviez des choses à dire à ce sujet? Déjà, peut-être dans votre famille, est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui, Mathéo?
Une sœur.
Une sœur? Plus grande, plus petite?
Même âge.
Même? Ah! Bien. Alors, est-ce que toi tu trouves qu'il y a une différence sur le fait d'être un garçon ou une fille dans ta famille, par exemple?
Non.
Non, vous êtes traité de la même manière.
Une chambre rose et une chambre bleue.
Ah voilà, quand même. Ça, le code couleur est toujours présent. Nina?
Il y a aussi les jeux aussi qui sont très classés. Par exemple, les filles, c'est plus les poupées. Et les garçons, on joue au foot, voilà.
Les voitures.
Ouais, voilà, les voitures.
Est-ce qu'il y a... Alors, les jeux, c'est vrai que les jeux sont très genrés dès l'enfance. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que quand on se promène dans les grandes surfaces aux périodes de Noël, on a vraiment les rayons roses, les rayons bleus, et vraiment des jeux très genrés. Est-ce qu'il y a quand même des jeux mixtes où vous trouvez quand même... que même dans les jeux de société, vous trouvez que certains sont peut-être plus masculins ou d'autres plus féminins ou plus utilisés par les garçons ou par les filles?
Les jeux vidéo, par exemple, il n'y a pas de différence entre jeux vidéo filles et jeux vidéo gars. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas du tout, mais...
Après, il y a plus en plus de filles qui jouent aux jeux vidéo.
Ah oui, donc mais c'est universel.
On est déjà plus grand quand on joue aux jeux vidéo. Donc,
oui.
Voilà, dans la petite enfance. Moi, j'ai envie de dire que quand on va dans un magasin acheter un jouet, avant de nous demander pour quel âge, on nous demande garçon ou fille. Souvent, c'est pour qui? Voilà, c'est pour qui? Et puis alors, voilà, petit garçon, petite fille. Enfin, moi, il me semble que c'est encore bien différencié.
Et les jeux vidéo, est-ce que ce sont les mêmes pour garçons et filles? Ou est-ce qu'il y a des jeux vidéo plus orientés filles que garçons, ou inversement?
Bah oui, il y en a certains, oui.
C'est quoi vos jeux vidéo, alors, par exemple?
Il peut y avoir des jeux, genre, pour s'occuper des bébés, des chiens, etc. Et après, bah, il y a des jeux vidéo plus pour la guerre, etc.
Ah oui. Les garçons, vous jouez aux jeux vidéo?
Oui.
Un peu.
Quel genre?
GTA.
Ouais.
Black Ops. Et il se passe quoi là? Parce que moi, ça me parle pas trop.
Bah, Black Ops, c'est... T'as plusieurs modes de jeu. T'as un mode zombie, mode avec des personnes, 4 personnes contre 4, duo.
Et c'est filles et garçons? C'est mixte?
Ma soeur, elle joue.
Elle a quel âge ta soeur, par exemple?
Elle a 16.
Donc plus âgée que toi?
Oui.
Mais alors les personnages, parce que j'en ai quand même aperçu sur des écrans, les jeux, des jeux vidéo, les personnages, c'est souvent des garçons quand même. Il n'y a jamais trop de filles ici?
Bah ouais.
Plus une fille garçons. Avec des couettes, ça n'existe pas ça?
Non. Bah.
Non. C'est surtout des garçons en fait.
Ouais.
C'est bah, des poursuites de garçons ou.
Bah sur Fortnite, il y a des trucs filles.
Ah quand même.
Mais quand c'est des filles, c'est elles sont habillées très sexy.
On voit bien leur forme.
D'accord. Et après, c'est uniquement pour les filles, pour les filles et les garçons.
Bah il y a des personnes qui prennent
pour les garçons.
Tout à fait. Ça commence de bonne heure, en fait.
Voilà, c'est très genré dès le départ, oui, effectivement. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des stéréotypes, filles, garçons, qui sont véhiculés dans ces jeux, dans ces jeux, puis dans d'autres choses, hein, dans les lectures également, dans les... Non, vous trouvez, alors Nina, par exemple, tu trouves que les filles telles qu'elles sont représentées dans les jeux, est-ce que tu trouves que c'est représentatif des filles, par exemple,
que
de ton âge ou des filles qui ont l'âge de jouer à ces jeux?
Bah non, parce que on est, enfin, les filles, on est toutes différentes, enfin même les hommes, on est tous différents et on n'a pas des formes ultra développées.
Un certain style et un certain physique qui frôle la perfection, j'imagine.
Oui.
Voilà. Et les hommes, ils sont aussi dans ce schéma-là. Ils frôlent la perfection aussi dans les représentations des jeux vidéo.
Moins, mais on voit leurs muscles.
J'aimerais attirer aussi votre attention sur les contes, parce que c'est bien avant les jeux vidéo. Mais qu'est-ce que vous pensez des contes pour enfants? Est-ce que vous en avez lu? Les Blanche-Neige, les Belles au bois dormant. Oui, oui Mathéo, oui. T'en as lu aussi?
Oui.
Les garçons, vous en avez lu aussi des contes, ces contes-là?
Les héros, c'est plus des garçons que des filles.
Alors sur quel type de conte par exemple, quel type de
La Belle au bois dormant.
Ouais. Oui, il faut dire qu'elle dort pas mal. En attendant son prince charmant.
Blanche-Neige.
Ouais, Blanche-Neige et
les sept nains.
Et alors, y a rien que vous remarquez un petit peu dans ces contes, je veux dire sur la façon dont est représentée la femme.
C'est elle qui fait le ménage.
En gros, comment ça se passe?
Bah, c'est toujours la femme qui est en détresse et c'est un homme qui vient la sauver.
Voilà.
Voilà, l'homme le sauveur.
Voilà, le prince charmant, l'homme le sauveur. C'est vrai que bon, dans Blanche-Neige, elle est perdue dans la forêt parce que trop belle, etc. Et chez les nains, qu'est-ce qu'elle fait?
Le ménage.
Le ménage, voilà.
Et à manger.
Voilà, elle fait son petit boulot de femme au foyer au jour où, bon, effectivement, elle trouvera le prince charmant. Cendrillon, qu'est-ce qu'elle fait, Cendrillon?
Le ménage.
Voilà, encore une fois, le ménage. Jusqu'au jour où, voilà, le prince charmant. Ah oui, la Belle au bois dormant. Elle dort. Bon, voilà, je veux dire, moi, je sais pas ce que vous en pensez.
Est-ce que ça reflète la vie d'aujourd'hui, tout ça? Donc la femme au ménage et puis le prince charmant vient la chercher. Donc est-ce que c'est encore au jour d'aujourd'hui en 2019?
C'est vrai que ce sont des contes quand même qui ont la vie longue. Hein, parce que vous les avez connus aussi.
Ah ben.
Vous c'est c'est des classiques. Pour vous aussi ce sont des classiques.
Oui.
Ouais. Donc est-ce que on véhicule pas aussi une certaine image de la femme, de la fille à travers ces contes? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un peu l'inverse par exemple?
C'est vrai que dans ces contes, c'est pas elle qui choisit le prince, elle attend et le prince surgit, donc elle est...
J'ai lu quelques contes quand même où c'était l'inverse, hein, où la fille se rebellait, ne voulait pas l'homme qu'on lui choisissait et décidait d'épouser le jardinier plutôt que le prince voisin. Mais bon, voilà, pour dire que je pense que dès l'enfance, en fait, on commence à avoir des stéréotypes hein, qui sont véhiculés, puis vous voyez que ça passe finalement assez bien et assez inaperçu, hein, ça paraît assez inoffensif, mais mine de rien, je pense quand même que c'est quelque chose qui participe un peu à la construction de ces stéréotypes. Et ensuite, on voit que après sur des jeux, quand on est plus grand, ou sur des jeux plus modernes comme les jeux vidéo, on voit que ces stéréotypes se poursuivent. Alors après, je pense que les histoires sont différentes, les femmes sont peut-être un peu moins passives, hein, on est moins sur les princes charmants, c'est bon, on a compris qu'ils n'existaient pas vraiment.
Merci, je vous propose une petite pause musicale avec Clara Luciani, La Grenade. À tout de suite.
Longueur d'onde,
l'émission qui réunit les générations.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
Toujours sur Radio Prévert, sur Longueur d'onde, l'émission qui réunit les générations. Alors, est-ce que vous pensez que l'école ou l'éducation que vous avez reçue ont joué un rôle dans votre orientation scolaire, là, je veux dire, par rapport à l'école, est-ce qu'il y a vers quoi vous voulez vous orienter? Est-ce que toi, Nina, par exemple, tu veux faire quoi plus tard?
Moi, je vais faire vétérinaire.
Ah ouais, vétérinaire. Mathéo, je crois que c'est archéologue, oui. C'est ça? Et Brian?
Pompier volontaire.
Pompier volontaire. Bravo.
Des belles perspectives. Hein.
Dans les activités, dans les sports, vous trouvez qu'il y a des inégalités ou égalités? Je veux dire, vous, dans les sports, dans les activités que vous pouvez pratiquer?
Par exemple, dans les cours de sport, est-ce que les filles font la même chose que les garçons?
Ah oui.
Oui. Oui, souvent. Moi, personnellement, j'ai pas trop connu, puisque c'était que des écoles de filles, donc c'était des courses entre filles, donc il n'y avait pas de rivalité, filles-garçons.
Bien tranquille de ce côté-là.
Ah oui.
Alors justement, les seniors, parlez-nous un petit peu de l'école que vous avez connue, parce que vous avez peut-être connu les écoles non mixtes, justement.
Ah oui, école de filles.
École de filles, mmh. École de garçons.
Sauf les petites écoles communales où c'était mixte, évidemment. Mais bon, après, à partir de la sixième, filles, 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 et puis voilà. Donc on n'avait pas le droit de regarder les garçons, même.
Bah, s'il n'y en avait pas, c'était vite.
Oui, non, mais dès qu'on sortait, on était surveillés aussi. Et on n'avait pas le droit de jeter un œil sur un regard sur un garçon.
Ah oui.
Ah oui, oui, oui. C'était très strict. Puis après, au lycée, tu parlais de rose et bleu. Donc, au lycée à Chalon, je pense qu'il y a beaucoup de Chalonnaises qui ont connu.
Les petits carreaux roses.
Voilà.
Les quoi?
Une semaine, les blouses à carreaux bleus. Et l'autre semaine, les blouses à carreaux roses.
Pour les filles?
Oui, oui, on était toutes en blouse.
D'accord.
Oui.
Et est-ce que vous aviez des cours spécifiques pour filles? Est-ce que vous aviez des activités spécifiques?
En primaire, moi, j'étais dans une école mixte. Alors, il y avait pas de couleur de blouse. La blouse était libre. Mais il y avait des cours spécifiques d'apprentissage de couture. Alors, souvent, ils passaient à l'AS parce qu'il fallait rattraper des cours de maths ou de français, des choses comme ça. Mais les garçons étaient dispensés des cours de couture, par exemple. Le collège s'était séparé. Pourtant, c'était un collège public. Mais il y avait le collège garçon, le collège fille. Les blouses n'étaient pas de la même couleur, effectivement, les garçons avaient des blouses bleues, nous on avait des blouses beiges, mais bon. Et on ne se mélangeait pas, il y avait quand même des cours de langue. Alors, il fallait pas rentrer en même temps dans la classe, voilà, les garçons étaient côte à côte, il n'y avait pas un garçon à côté d'une fille, enfin c'était compliqué. Pour rentrer à la cantine, c'était compliqué aussi, on rentrait pas en même temps, on n'était pas aux mêmes tables. Il fallait quand même bien séparer les années collège, il fallait bien séparer les garçons et les filles. Et au lycée, les blouses à petits carreaux roses, au lycée à Chalon, et il y avait quand même des garçons, c'était un lycée mixte. Alors les garçons avaient une blouse bleue. Déjà, on mettait moins de blouses, souvent elles étaient que des
tachées.
Au lycée, on avait des blouses. Oui, des blouses à petits carreaux roses. Voilà. Et les garçons, quand même, ne portaient pas la blouse à petits carreaux roses. Ils avaient une blouse bleue. C'était la fin des blouses. Collège et lycée. Alors, collège, puisque c'était séparé. Je sais pas ce que faisaient les garçons, du coup. Je sais pas ce qu'ils faisaient comme cours. Ils avaient certainement les mêmes cours.
Et ils avaient peut-être des cours de bricolage, non? Ou de choses.
Par contre, il y avait une compétition entre les deux collèges. Et le collège fille réussissait bien mieux que le collège garçon. non, mais ça c'était une compétition entre directeurs, quoi, carrément. Voilà, les filles étaient plus disciplinées, les filles étaient plus travailleuses, etc. Il y avait quand même vraiment les stéréotypes.
Et est-ce que ça s'est connu par la suite, justement, sur les orientations scolaires? Je veux dire, est-ce que vous savez si les filles sont allées plus loin dans les études que les garçons ou, vous savez pas.
Par contre, de ma génération, c'était quand même bien déterminé. Moi, je ne connais aucune fille de ma génération qui soit allée en mécanique. Il n'y avait pas non plus de garçons qui faisaient l'école d'infirmière. Là, j'ai une majorité de copines qui sont allées faire l'école d'infirmière ou de... Mais bon...
L'institutrice aussi.
Oui, instituteur-institutrice, c'était, je crois que c'était partagé, quoi, mais... oui, les orientations, quand le conseiller ou la conseillère d'orientation, je sais plus, mais c'était quand même bien net, il y avait quand même des professions, des professions hommes, des professions... Enfin, et pompiers, et... Aucune fille aurait eu pensé, imaginé être pompier, alors que maintenant, dans toutes les compagnies de pompiers, je pense qu'il y a des femmes pompiers, comme il y a des femmes militaires.
Je pense que ça se démocratise un peu. Brian, tu sais, si des filles rejoignent les écoles de pompiers
Oui, aussi en militaire.
Oui.
C'est rare, mais il y en a.
C'est vrai que ça reste quand même rare. Je pense que... Est-ce que vous, au collège, vous avez des journées d'information, de sensibilisation, justement, sur les métiers et qu'on essaye de sensibiliser, justement, les élèves pour leur dire, ben voilà, que tout est possible au niveau de l'orientation professionnelle et que les filles peuvent aussi bien aller sur des écoles d'ingénieurs, peuvent aussi bien aller sur des métiers dans l'armée, pompiers, etc. Enfin, je veux dire, des métiers qui, pendant longtemps, et j'ai presque envie de dire jusqu'à présent, sont quand même restés très « genrés », entre guillemets, hein, très typiquement masculins ou typiquement féminins. Enfin, c'est comme sage-femme, c'est comme, effectivement, infirmière. Je pense qu'il n'y a pas énormément... Bon, il y a des infirmiers, mais pas énormément non plus. Dans les métiers médicaux, je veux dire, c'est vrai qu'on a quand même aussi énormément de femmes. Hein, je veux dire, ça reste quand même quelque chose qui est très ancré. Alors, je ne sais pas si c'est dès le collège ou... Bon, je veux dire, avant, c'est vrai que c'était... Bon, après la guerre, enfin, même avant d'ailleurs, hein, je veux dire, la femme avait quand même un rôle
déjà qui était quand même bien définie, hein. Je veux dire, c'est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, je veux dire, avec Pétain, je veux dire, la femme, c'était la femme idéale, c'était vraiment quand même la femme au foyer, qui faisait des enfants, qui s'occupait de ses enfants, de son foyer, etc. Hein, bon, ça a changé par la suite, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est resté très ancré, hein, dans une société très très patriarcale. J'aimerais qu'on aborde aussi la place et la condition des femmes dans la société. Alors, vous, quand on vous parle des inégalités femmes-hommes, quelles sont les premières choses qui vous viennent à l'esprit? Quand on vous a proposé cette émission, je m'adresse notamment, je m'adresse aux collégiens, mais aux seniors également, parce que tout le monde a son avis là-dessus. Quand on vous a dit, bon, on fait une émission sur les inégalités femmes-hommes, quelles sont, vous, les premières inégalités qui vous sont venues à l'esprit?
Les inégalités de salaire.
Oui.
De juger la femme comment elle s'habille et qu'on la siffle dans la rue.
Les seniors, hein, qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce thème,
hein? Les inégalités de poste.
Dans le travail?
Dans le travail, oui, dans la vie professionnelle.
Ouais.
Encore aujourd'hui. Alors, avec les inégalités de salaire, comme tu le disais.
Alors, il y a beaucoup à dire, hein, sur le monde du travail et le salaire, parce que il y a les inégalités de poste. Je veux dire, bon. Tu peux développer un petit peu, parce que c'est vrai que il y a la question de, ben déjà, de pouvoir travailler, hein, je veux dire, le droit des femmes de pouvoir travailler sans l'autorisation de leur mari, bon voilà, ça monte un petit peu, mais voilà, je veux dire, c'est pas si vieux non plus. Il y a pas mal de choses, hein, je veux dire, par rapport à la femme, je veux dire, sur le fait qu'elle soit femme, hein, je veux dire, il y a la question des enfants déjà. Hein, je veux dire, qui a souvent freiné, hein, c'est vrai qu'on sait que la majorité des femmes donc gagnent moins que les hommes, hein, à poste égal, je veux dire, sur les évolutions de carrière, sur la formation, sur la durée des contrats, etc. Vous avez d'autres choses à ajouter?
Moi, j'ai une remarque dont on a parlé l'autre jour. Quand j'ai cherché du travail dans les années 74-15, donc je faisais toutes les places qui étaient offertes dans les journaux, donc c'était presque du porte à porte. Et dans une société, on m'a demandé, donc j'avais 20 ans, si je pensais me marier et si je pensais avoir des enfants. Donc à vrai dire, à 20 ans, j'ai pas pu dire non, parce que je veux dire, c'est le rêve de toute jeune femme de fonder une famille. Alors, des questions de ce genre, j'espère que ça n'existe plus, parce que franchement, ça met mal à l'aise. Étant donné votre âge et puis votre désir de fonder une famille, eh bien, la place sera pour un ou une autre. Mais c'est vexant.
C'est tout à fait vrai qu'à compétences égales, niveau d'études égales, il y a deux candidats pour un poste. On allait préférer prendre la candidature masculine à la candidature féminine, parce qu'il y avait un risque d'absentéisme. Enfin, on y avait. Il était supposé, ou il était présupposé par l'employeur, le risque d'absentéisme de la femme, ou qu'elle abandonne son poste, ou qu'elle se mette en disponibilité, etc., par rapport à sa vie, pour préférer sa vie familiale. Et c'était une des discriminations qui certainement existe encore aujourd'hui. Ça ne se dit plus, mais bon, je pense que voilà.
Ça se pratique. Exactement. Je pense que ça ne se dit plus, mais ça se pratique encore. Je pense aussi. Désolée, Nina. J'espère que ça changera quand tu arriveras sur le marché du travail.
Après, de ce que dit Nina par rapport à l'apparence, c'est vrai que toujours pareil, à compétences égales, à niveau d'études égales, le physique de la femme joue aussi pour trouver du travail ou pour être refusée. On va encore juger le physique. Elle convient, parce que physiquement, elle convient. Voilà. À certains postes, peut-être pas tous les postes. Enfin, on l'a dit pour la politique aussi.
En revanche, question vestimentaire, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas trop d'écart entre les garçons et les filles, puisque le jean, il est universel.
Donc, le
survêtement. Ouais. Parce que à notre époque, on aimait encore peut-être pas les sockets blanches, mais les jupes, les robes. Donc, ça faisait la différence avec le garçon qui n'avait le jean, c'était pas très à la mode, mais c'était le pantalon droit, etc., ou à pattes d'éléphant. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus un costume universel, le jean, un sweat, et puis voilà. Donc là, il n'y a pas de différence. Mais ça reste que le vêtement.
Oui, enfin, il y a pas de différence, mais bon, peut-être que toutes les filles n'ont pas forcément envie d'être en jean et en suite. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un uniforme quelque part. Mais bah justement, Nina, tu voulais parler un petit peu justement de l'habillement au collège ou toi dans ta vie quotidienne ou comment ça se passe à ce niveau-là. Est-ce que toi tu mets ce que tu as envie ou est-ce que tu mets ce que tu es censé mettre et parce qu'il faut mettre plutôt telle tenue qu'une autre quand tu vas à tel ou tel endroit, par exemple.
Bah, par exemple, au collège, nous, les filles, on a pas le droit de mettre des shorts parce qu'ils jugent que nos shorts sont trop courts. Donc, pour pas que les garçons regardent nos formes, ils nous disent, bah non, vous portez soit des shorts comme des Bermudas, ou bah, soit des pantalons, mais vous portez pas de shorts. C'est un peu comme de l'inégalité parce que les garçons, eux, leur short, ok, il est plus court, mais nous, notre short, il est plus long. Et bah, nous, on a le droit de mettre un short plus court si on a envie.
C'est vrai que sur les shorts, dans les collèges, c'est bien connu. C'est vrai que les collèges sont très stricts, effectivement, sur la tenue vestimentaire. Et que les filles, je pense, sont assez couramment rappelées à l'ordre.
Et le maquillage est permis pour les plus anciennes, ou les troisièmes, ou les sixièmes, ou...
Il n'y a pas vraiment d'ordre, mais il faut que ce soit léger, pas que ça soit voyant.
Je veux pas être prise.
Voilà. Christiane, renvoyée du collège.
L'histoire du short, de ma génération, on ne portait le pantalon que l'hiver aussi. Il y avait déjà la tenue d'une jeune fille, c'était d'être en jupe. Pareil dans les administrations, il n'y a pas si longtemps que ça que le costume pantalon était admis dans les voilà une sous-préfète. Il y a pas si longtemps que ça qu'une sous-préfète a un costume pantalon ou donc la tenue féminine, il y avait une règle, oui, le costume c'était d'être en jupe et tout, le pantalon était réservé. Les années collège, le short c'était l'activité sportive, point, ou à la maison. On n'allait pas aller au collège ni au lycée en short.
C'était ouais, peut-être ouais. Pas la mode non plus des shorts à cette époque. Parce que les shorts, c'est vrai que les shorts, alors je sais pas quel genre de shorts vous mettez, bon c'est vrai que maintenant on peut avoir des shorts habillés, voilà.
Donc je pense qu'il faudra peut-être encore 50 ans, je sais pas.
Moi ce qui m'amuse c'est que le pantalon est vraiment entré dans la mode vestimentaire, partout, hein. Les femmes qui travaillent dans les entreprises, les femmes politiques, enfin maintenant on ne voit que le pantalon et nous on n'avait pas le droit de le porter. Ou sous une jupe, quand j'étais au collège, oui, qu'on se dépêchait d'enlever en sortant, mais... C'est fou, hein.
Et c'était dans quelles années?
60, oui, voilà, à peu près. C'était, enfin, j'étais dans un collège privé aussi, il faut dire que c'était plus strict. Mais...
Oui, dans les années 60, donc. Oui, dans les années 60. Obligation pour les filles de porter jupe ou robe et pas de pantalon. Ouais. Alors justement, est-ce que vous auriez des choses à dire par rapport à la mode, à l'évolution de la mode sur la question homme-femme? Parce que c'est vrai qu'on a quand même certains créateurs qui ont masculinisé justement les tenues.
Et l'inverse.
Et l'inverse aussi.
Si on veut revenir aussi à la mode de, peut-être quand même quelques années avant moi, je veux dire que pour les adolescents, ils ne portaient pas le pantalon long, ils ne portaient le pantalon long que à, je sais pas, 15 ans. Donc, ils passaient, eux, l'hiver, en chaussettes et en une espèce de, enfin, on appelait ça les culottes courtes, l'expression restée en culottes courtes. Ça ressemble plus à un Bermuda habillé de maintenant. C'est ce qu'on voit dans les films. Ils avaient ce costume jusqu'à, enfin, cette manière de s'habiller jusqu'à, je sais pas, 14, 15 ans.
Et après, boutons.
Voilà, c'était pas mieux pour les garçons, là, je pense. Moi, je sais pas, mais. Je sais pas si vous aimeriez être en chaussettes et en Bermuda
tout l'hiver.
Voilà, tout l'hiver. Je pense qu'il y a eu une révolution effectivement avec les costumes pour femmes, les costumes.
Les tailleurs.
Les tailleurs pantalons, oui. Allez.
Tailleurs Coco Chanel. Puis ensuite après, maintenant aussi, on voit des défilés de mode par des mannequins hommes qui portent aussi des jupes, des robes. C'est un petit peu une révolution pour montrer l'égalité homme-femme.
Oui, tout à fait. Je pense que la mode a beaucoup joué.
Avant d'aborder la dernière partie de cette émission, on écoute Femmes libérées de Cookie Dingler.
Longueur d'onde.
L'émission qui réunit les générations.
Cher, le mondial.
l'acte quand même et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile.
Toujours sur Radio Prévert, nous parlons aujourd'hui des inégalités femmes-hommes.
Alors, on avait évoqué aussi un petit peu le rôle des artistes aussi. Vous m'aviez parlé aussi un petit peu de l'émergence de femmes artistes, cinéastes, réalisatrices. C'est Christiane, je crois, qui nous avait parlé de la Nouvelle Vague, avec Agnès Varda, notamment.
Agnès Varda, notamment. Puis le cinéma de la Nouvelle Vague, il y avait notamment Truffaut, il y avait Godard, puis d'autres qui ont... qui effectivement ont révolutionné le cinéma, qui ont dérangé aussi, ils ont dérangé. C'était vers mai 68, lorsque le Festival de Cannes avait été supprimé, justement, à cause des événements.
Et puis dans les orchestres, par exemple, que je vais écouter au conservatoire ou autre, c'est principalement des hommes encore. Il y a des jeunes femmes, certes, mais c'est principalement des hommes.
Musiciens,
voilà. Mm-hmm. Et les chefs d'orchestre, hommes.
Les discriminations sexistes qui vous choquent le plus dans l'histoire et dans le monde, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?
Mon prof d'histoire m'avait raconté une fois que dans un certain pays, quand les femmes naissent, quand elles deviennent plus vieilles, on paye pour son mariage. Et quand c'est un homme, on ne paye pas, genre c'est l'épouse qui va payer.
C'est la dot.
C'est une marchandise.
C'est le mariage forcé. Oui, ça je pense que c'est effectivement, quand on parle des inégalités, la question des mariages forcés, qu'on voit encore dans de nombreux pays, et qui reste quand même toujours actuel.
Je pense qu'on ne peut pas trop s'imaginer, nous, dans notre France actuelle, de ne pas choisir son compagnon, de ne pas choisir sa vie. On l'a dit aussi au début, qu'il y a des civilisations, où c'est prédestiné, et la jeune fille, elle est considérée comme quelque chose de valeur, puis on pourra la monnayer pour un mariage. Et elle ne va pas choisir. Alors après, elle sera peut-être heureuse, mais bon, on peut se poser des questions quand même et se retrouver avec quelqu'un qu'elle n'a pas choisi du tout, qu'elle va subir. Et si elle ne convient pas non plus dans certains pays, si elle ne convient pas, elle est répudiée. Vous avez sans doute entendu parler, on leur balance de l'acide dessus pour qu'elle soit défigurée, qu'elle soit abîmée. Enfin, c'est compliqué.
Puis on leur demande de faire des enfants. Donc celle qui peut pas faire d'enfants, eh bien, comme tu dis, elle est répudiée. Et puis, dans certaines civilisations, pourquoi l'homme aurait plusieurs femmes?
Donc, ah voilà. Oui, la polygamie, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, effectivement. C'est... Oui, c'est vrai que, voilà, la polygamie où l'homme a plusieurs femmes, le cas inverse est beaucoup plus rare. Hein.
N'est-ce pas?
Encore un combat à mener. Bien, l'émancipation de la femme vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes, quels sont selon vous les événements les plus marquants qui ont permis finalement cette émancipation des femmes et l'évolution vers une société plus égalitaire? Alors sur le plan historique, sur le plan politique, professionnel, enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet.
On peut parler du droit de vote,
ah oui,
qui est récent, 1944.
Voilà, 1944.
Voilà, donc les femmes, on estimait qu'elles n'avaient pas de jugement, qu'elles n'avaient pas lieu de donner leur avis pour décider de qui allaient les représenter. Enfin, elles ne votaient pas, ni pour le maire, ni pour les députés. Bon, l'élection président de la République n'était pas encore au suffrage universel, c'est venu à ce moment-là, je crois. Est-ce que vous vous imaginez une société où, effectivement, on estime que les femmes n'ont pas d'opinion?
Ou n'ont pas à le donner.
Ou n'ont pas le droit de le donner. Moi, le droit de vote, j'avais une grand-mère qui a acquis, comme plein de femmes, le droit de vote en 1944. Et à chaque élection, quand j'étais petite, il fallait que j'aille avec elle pour voir comment faire. J'ai envie de dire, j'ai eu l'apprentissage. Alors, oui, voilà, ça. J'entrais dans l'isoloir avec elle et je la voyais mettre son papier. Je pense que c'était tellement important pour elle qu'elle devait s'imaginer,
un témoin.
Il faut qu'elle apprenne. Ça n'a rien de
et puis
compliqué.
Parce que tu étais une fille aussi. Il fallait s'imposer en tant que femme, je l'ai
bien senti que c'était très très important, oui, pour elle, d'une femme, oui, qui a commencé à voter à 40 ans, quoi.
Oui, moi aussi, j'ai accompagné mon père quand il allait voter. Donc c'était, je pense, le fait qu'on avait le droit de voter, donc venez, tu es une femme, dans le futur tu voteras, donc voilà.
Et vous, à partir de quel âge vous avez voté?
Ouais, à 20 ans, je crois.
21.
Oui, la majorité.
Oui, la majorité.
La majorité, oui, 21 ans.
Et donc, vous êtes pas posé la question, je veux dire, spontanément, vous êtes allé voter.
Oh bah oui, parce que ça nous intéressait. Je pense que au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de polémiques, peut-être que on est plus ou moins intéressés. Mais à l'époque, il y avait que la radio, donc on s'intéressait à la radio. Au travers de la radio, à ce qui allait se passer. Donc oui, moi j'allais voter.
D'accord. Donc c'est vrai que elles ont eu le droit de vote en 44, droit de vote et d'éligibilité. Mais c'est vrai que on voit dans l'histoire qu'elles se sont pas saisies finalement de ce droit comme elles auraient pu le faire, hein, notamment en termes d'éligibilité, hein, parce que si on regarde quand même encore aujourd'hui, je veux dire, la représentation des femmes dans le corps politique est quand même assez infime, hein, finalement. Hein, et la France est pas très en avance sur le sujet, d'ailleurs.
La loi de parité qui, soi-disant, devait faire avancer les choses, je sais pas trop si c'est... Elle a été votée en 2016, je crois. Mais c'est pas encore tellement mis en place. Il y a surtout des politiques hommes.
Dans la citoyenneté aussi, c'est le fait que les femmes, elles travaillaient dans les années 60. Elles percevaient leur salaire, mais elles n'avaient pas le droit à un compte bancaire à leur nom. Donc elles étaient complètement dépendantes, passaient de la dépendance de leur père à leur mari, mais elles ne géraient pas. Enfin, oui, ça paraît assez incroyable de ne pas pouvoir ouvrir un compte bancaire parce qu'on est une femme. Ça paraît incroyable, ça.
Je lis là que ça a bougé quand même en 1965. C'est la loi de réforme des régimes matrimoniaux qui autorise les femmes à exercer une profession sans autorisation maritale et à gérer leurs biens propres. Oui, c'est récent,
ça,
hein.
Oui, ça, je pense que c'est important de le préciser. Est-ce qu'il y a d'autres événements marquants dans cette émancipation de la femme?
Moi, je dirais le nom aussi. Autrefois, on portait obligatoirement le nom de son père. Maintenant, l'enfant qui naît, les parents choisissent si ça peut être le père ou la mère, ou les deux.
Et puis même quand on se marie, au jour d'aujourd'hui, la femme peut garder le nom, son nom de jeune fille. au lieu de prendre le nom de son mari. Ensuite, pour la femme, ce qui a été super bien pour la famille, c'était la contraception dans les années 70, je ne sais plus.
67.
La contraception, ensuite l'avortement, etc.
75. Mais ça, c'est vrai que ce sont des révolutions importantes, hein, le droit à la contraception, puisque avant, bon voilà, la femme était femme au foyer, censée faire des enfants, etc. Et c'est vraiment à partir des années 60 et à partir de cette autorisation du droit à la conception et plus tard le droit à l'IVG, hein, qui ont permis aussi aux femmes de disposer de leur corps et de leur sexualité et de ne pas avoir une sexualité automatiquement associé à la procréation. Et ça, c'est vrai que ça a été un pas énorme, puisque la femme, elle est plus réduite, si je puis dire, à être simplement mère au foyer.
Alors, je pense que oui, on aurait pu parler aussi un petit peu du rôle des mouvements féministes, hein, qui ont justement beaucoup œuvré dans ce sens. De ce moment-là, hein, notamment avec... avec Simone Veil, avec Simone de Beauvoir également, hein, qui ont beaucoup fait avancer les choses sur l'émancipation de la femme. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, vous, les jeunes de ce côté-là, sur les événements marquants? Alors peut-être vous, peut-être plus à votre niveau, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent importantes un petit peu dans cette marche vers l'égalité femme-homme, garçon-fille? Pour vous, vous avez déjà pas mal d'acquis finalement. C'est vrai que c'est pour ça que les seniors ont peut-être un peu plus parlé sur cette partie de l'émission, hein, parce qu'elles ont vu vraiment les choses changer. C'est dommage, on n'a pas de monsieur senior aujourd'hui autour de la table. Hein. C'est vrai qu'en termes d'égalité, là autour de la table, je dois dire que les femmes sont un petit peu majoritaires.
On peut pas trop se rendre compte que l'avortement était puni. Non seulement il n'était pas autorisé, mais il était puni, c'est-à-dire qu'il y avait une condamnation. Alors les dernières années, j'ai envie de dire, enfin de moi ce que j'ai connu, moi j'ai jamais connu de personne qui soit allée en prison par rapport à ça. C'était un délit, voilà, c'était un délit et c'était puni. Alors de dire ça n'est plus un délit, c'est et après énorme. C'est devenu un droit, voilà. Donc de passer de quelque chose qui est un crime, enfin un délit, et puis après un droit, c'était quand même très 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 important.
Alors les choses ont certes beaucoup évolué, mais il reste encore beaucoup à faire. Selon vous, que faudrait-il faire pour que notre société soit plus égalitaire? Alors que ce soit dans votre vie quotidienne, au collège, en famille ou ailleurs, est-ce que vous voyez des choses pour améliorer? Des choses à améliorer pour plus d'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes?
Que tout le monde soit plus mature, parce que quand une fille s'habille trop court, elle est sifflée, ou quand un garçon se maquille, il est jugé.
En fait, c'est aussi le respect de la personne. Oui. Chacun doit respecter l'autre. Si une fille a envie de porter une jupe courte ou un short court, comme tu as dit tout à l'heure, elle devrait pouvoir. C'est respecter ses idées, puis ça fait évoluer les mentalités.
C'est la tolérance et la différence. Voilà, il n'y a pas lieu qu'il y ait des idées qui soient dominantes et qu'on juge que ce soit mieux d'être habillé comme ça ou de se présenter de telle manière. On n'a pas lieu d'être sifflé, effectivement, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, ou d'être critiqué parce que... Voilà, donc la tolérance à l'autre qui s'habille ou qui se met en valeur d'une manière différente.
Et par quels moyens, ça, un peu, là? Parce que ça commence tôt, ça, finalement. Hein, moi, je pense que ça, ce sont vraiment des choses dont il faut prendre conscience dès l'école, dès la petite enfance, quasiment. Hein, je veux dire, d'être justement sur ce rapport d'égalité, sur ce respect mutuel, sur cette tolérance. Et c'est quelque chose, il y a l'éducation, et je pense qu'il y a les lois aussi. Hein, si on regarde bien, finalement, je veux dire, on a eu quand même pas mal de lois qui ont permis cette émancipation de la femme, qui ont permis à la femme d'avoir plus de droits. On a la journée des droits de la femme, on a la journée de la jupe, enfin bon, on a des journées comme ça de sensibilisation, mais finalement, c'est assez récent qu'on ait créé un observatoire qui permet effectivement d'évaluer un petit peu les effets et les applications de ces lois. Hein, je crois que l'Observatoire date de 2006. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose quand même de très récent. Et voilà, entre l'éducation et également les lois qui permettent de faire appliquer, qui est décidé, je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup.
Mais à contrario, il n'y a pas la journée des hommes, il me semble pas. Donc là, on a fait un grand pas pour la femme. On la met en avant au moins une journée par an.
Bien, je vous remercie tous pour votre participation. Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Je te donne toutes mes différences.
Longueur d'onde.
Et sont autant de chance.
L'émission qui réunit les générations.